eh bien, on fait une énorme alia de plusieurs centaines de familles de rabbins ensemble, mais qui n'a pas été à Jaffa, mais qui n'a pas été suivie par les juifs de France de l'époque. Okay. Imaginez qu'est-ce que c'est 300 talmidei chachamim et leur famille faire une alia en même temps. Okay. Je vous citerai tout à l'heure, il faut que je vous trouve la référence, que Rashi dit très explicitement sur une phrase de la Gemara que habiter en dehors d'Eretz Israël n'a aucun mérite et plein de fautes, le fait d'habiter en dehors d'Eretz Israël. Rashi lui-même dit cela. Okay. Alors, revenons, ouais, n'oubliez pas ce qu'on a appris avant, c'est pour ça que je vais un peu lentement, mais j'ai l'impression que je vais trop vite finalement. C'est que il y a deux clauses qui fait qu'un juif n'est pas concerné par ce que nous disons. S'il considère qu'il est vraiment à l'étranger, que c'est provisoire, Ken, Yadour et pas Yagour, vous vous rappelez, Ken, alors il n'est pas dans le cas de la Mishnah, il est sauvé de cette braïta. Et s'il y a obstacle que ce n'est pas possible, bien entendu aussi. Mais tant dans le cas du voyage que dans le cas de l'obstacle, il est bien évident que c'est une identité provisoire, anormale, fantomatique, en attendant qu'elle se régularise. Et c'est le fait de la fonder comme telle, tu vois ce que je veux dire, Benny, de la fonder comme telle, idéologiquement, eh bien, qui est catastrophique.
Mais le fait de définir les mitzvot qui concernent l'Israël et les mitzvot qu'on peut faire en Chutzlaret,
c'est une... Non, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire en Chutzlaret. C'est pas la même chose. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire en Chutzlaret. Okay. Mais toutes les mitzvot ne concernent qu'Eretz Israël. Certaines, on peut les faire en dehors du pays. C'est pas interdit. Mais la kedusha qu'elles ont n'a rien à voir. C'est une kedusha de conservation. Okay. C'est une mesure conservatoire. Comment ? Je veux dire, personne ne s'y est jamais trompé que les ignorants. Pendant des siècles, on savait ça. Un jour, on l'a oublié. C'est tout. Je vais vous donner l'expression par laquelle on désigne les mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël. C'est mitzvot tluyot baaretz. Les mitzvot qui dépendent de la terre. Vous voyez bien que ce n'est pas la terre qui dépend des mitzvot, c'est les mitzvot qui dépendent de la terre. Ce n'est pas aaretz qui est tluya be mitzvot. C'est les mitzvot qui sont tluyot baaretz. Vous entendez en hébreu, okay. Par exemple, vous avez beaucoup de juifs qui disent « Ah, cette terre, elle n'est pas sainte si on ne pratique pas les mitzvot. Okay. » C'est les mitzvot qui ne sont pas saints si on ne les pratique pas sur la terre. Est-ce que vous voyez que c'est l'inverse? Et comment on dit en hébreu? Mitzvot, kluyot, baaret. Et pas aaret, kluyot, avec mitzvot. T'as compris?
Mais toute personne temporairement en exil,
et vous croyez qu'on peut tromper le bon Dieu? Si elle dit la vérité, d'accord? Bien sûr qu'il y a une clause de sincérité dans cette histoire.
Est-ce qu'Adam a été créé en Israël?
Eh oui. Eh oui. Et on connaît même... Commencez pas à vous... Et on connaît même l'endroit exact. Mais pourquoi tu as posé la question reliée à notre question? En quoi c'est relié à notre sujet? C'est relié, mais en quoi? Où est-ce que Adam est enterré? À la caverne de Marpella. À la caverne de Marpella. Il y a le tombeau de Adam et de Hava, d'Abraham et d'Isaac, d'Abraham et Sarah, d'Isaac et de Rebecca, de Jacob et de Léa. C'est exact. Sur la route de l'exil. À Bethléem. Et. Bon, ça y est.
Comment le choix était fait sur la table?
Ça veut dire que. Oui, il y a une nature spéciale à cette terre. Et dont on a perdu l'idée que vous allez reconquérir par l'expérience au fur et à mesure que vous vous hébraïserez. Okay. Et ça, vous étudierez ça d'ailleurs dans votre séminaire sur Judas Lévi, j'espère. Sinon, même si Ben Ogros ne vous en parle pas, je vous montrerai le texte dans le Kuzari. Et je vais donner un exemple qu'on a donné en commentaire de ce que dit Judas Lévi à ce propos. Une comparaison. Vous savez, les vins de France, par exemple, chaque vin a une qualité différente suivant le terroir où il a poussé. On appelle ça un terreau, un terroir. Quel terroir. Le coteau, je ne sais pas quoi, le côte de je ne sais pas quoi, etc. Eh bien, Judas Lévi nous dit que chaque terre produit un type d'homme. En fait, comment on appelle cette doctrine hein. Enfin, c'est pas du. Actuellement, par exemple, dans la nouvelle droite, hein, la race, le sang, le sol, hein, bon, ça va pas dans ce sens-là. Hein? Oui. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque génie humain, c'est le produit de distillation d'un paysage bien précis. Okay? Ensuite, il peut voyager, mais il est produit par un paysage. Mais de la même manière, nous dit Judas Lévi, Israël est produit par la terre d'Israël. Et nous avons été déracinés de notre terroir, pendant 2000 ans. Okay? Alors imaginez une vigne transplantée pendant 2000 ans. Elle finit par prendre un autre goût. Okay? Et alors, dès qu'elle se réenracine, dès qu'elle retrouve ses racines, eh bien, se produit un choc que chacun d'entre nous éprouve à son niveau, mais qui est un choc physique, biologique. Je ne sais pas comment vous dire, indéfinissable, mais indéniable. Et il y a beaucoup de goïms qui le perçoivent aussi. Okay? Et finalement, ils nous disent, eh bien, c'est chez moi ici. Alors, probablement, c'était des déracinés plus que des racinés, et puis finalement, ils reviennent chez eux. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire là? Et Judas Lévi dit, cette terre distille la capacité prophétique. Et effectivement, il n'y a pas d'autre exemple. Okay? Et toute la prophétie n'est que d'Eret Israël, ne concerne qu'Eret Israël. Je vous donne un exemple. Quand vous explorerez le premier livre, le livre de Bréchit, okay? Le livre de Bréchit nous raconte toute l'histoire du temps des patriarches, depuis Adam Arishon jusqu'à la descente de la famille de Jacob en Égypte. Et après, il y a un trou. Tout ce qui se passe en Égypte, blackout. La prophétie recommence à la sortie d'Égypte. Vous remarquez cela? C'est clair. Okay. Le dernier verset de la Genèse, de Bréchit, c'est « Et ils se marièrent et ils eurent des enfants. Okay. » Comme dans les contes de fées. C'est fait. Et puis après, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Eh bien, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et quand ils en ont eu suffisamment pour faire une nation, alors là, ça recommence. Sortie d'Égypte, la prophétie recommence. J'ai remarqué ça. Blackout. Pendant ces 210 ans de l'esclavage de 400 ans. Donc, de la même manière, la prophétie s'est arrêtée. Vous vous rappelez les premiers cours d'introduction? Quand est-ce que la prophétie s'est arrêtée? Quand l'exil a commencé. Bon, corollaire, puisque l'exil prend fin, elle recommencera, c'est un autre problème. Okay? Mais vous voyez bien qu'il y a un lien entre l'identité Israël authentique et la terre. C'est une chose qu'il faut redécouvrir. Je me rappelle au premier cours que nous avons eu du Rav Kook, il y a très longtemps, quand on est arrivé dans le pays, il nous a dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger des tomates saintes et des bananes kdoshot. Bananot kdoshot, il m'a dit. Vous allez à Machane Yehuda et vous mangez des tomates saintes. Okay. Dans le même sens que la terre sainte, puisqu'on parle français. Et tant qu'on n'a pas récupéré. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? J'ai pas entendu. Et tant qu'on n'a pas. Ça y est. Tant qu'on n'a pas récupéré cela, que l'air qu'on respire en Eretz Israël n'est pas le même, et tout simplement parce que d'abord, nulle part il n'est le même. Et en Eretz Israël, il est juif. Okay. Vous voyez la différence?
Je veux dire, tout le monde s'en concerné par Adam, puisqu'on vient tous du même homme.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, dans ce cas, alors, chaque goy a sa place en Israël.
Chaque goy
a sa place en Eretz Israël.
Et c'est pas si simple que ça, parce que les goyims sont la production de leur territoire. Vous verrez dans le livre de Bréchit, quand il y a eu la dispersion de l'humanité, comment dit le verset ? Chaque peuple suivant sa langue, sa famille et sa terre. Les Artsotehem. Okay. C'est-à-dire, il y a chez les Goïm probablement énormément d'Hébreux descendants d'Adam Harishon perdus depuis les persécutions depuis 6000 ans. Alors, ceux-là se reconnaissent. Okay. Ça nous est très mystérieux pourquoi tel Goï arrive en Eretz Israël et dit je vais être juif dans ce pays. Okay.
Attendez,
quoi ?
Le juif qui se reconnaît pas en Israël.
Et bon, il faut avoir beaucoup de patience. Et tant qu'il est vivant, il y a de l'espoir. Et peut-être que si à la fin, il ne se reconnaît pas vraiment, c'était un peu le sujet tout à l'heure, alors on prend acte qu'il n'en était pas.
Okay. Et du coup, les anciens sont convertis.
J'ai pas compris. Quel cas tu veux dire ?
Mais non, mais il y a des gens qui sont convertis au judaïsme dans l'histoire, donc leurs descendants ne se reconnaissent plus forcément.
Bon, ben ça veut dire qu'entre-temps, leur identité juive s'est perdue, mais peut-être pas complètement, et que les descendants des descendants reviendront. Et là, ce sont des critères qui ne sont pas entre nos mains. Nous sommes dans un temps de tri. Et j'ai bien la tentation de vous ouvrir une parenthèse pour vous parler de ce qui s'est passé dans le chapitre de Devarim que j'ai cité tout à l'heure. Je vais l'ouvrir un petit peu très rapidement. Et nous sommes dans une période de tri. Quand on est dans une période de tri, il ne faut pas précipiter les événements. Okay? Malheureusement, les événements se précipitent eux-mêmes, c'est pourquoi on est coincé. Mais qui a le droit de perdre patience alors que Dieu a encore de la patience? Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas le droit. Okay? On n'a pas le droit de séparer les gens en deux, toi t'es sauvé, toi t'es perdu. Malheureusement, il faut intervenir parce qu'on est pris par le temps, la course contre la montre, si j'ose dire. Mais il est bien évident que quiconque se réclame de l'identité juive de quelque manière que ce soit, même anti-sioniste, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'on ne va pas lui enlever ce que sa naissance lui a donné. Même s'il se trompe, même s'il est tordu, même s'il est de mauvaise foi, même si. Vous comprenez le problème? Ça veut dire qu'en fin de compte, qui peut savoir, même si quelqu'un dit « j'en suis plus », peut-être c'est pas vrai, il a dit quelque chose et que dans le fond de lui-même, c'est pas ce qu'il a dit. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut avoir une patience angélique.
Des
Neshamot. Je ne dirais pas que ça comme ça. Il y a des Neshamot d'Israël, il y a des Neshamot des autres peuples. Et il peut arriver qu'une Neshama d'Israël s'est incarnée dans le corps d'un Goy. Ça dépend comment les parents ont fabriqué les enfants. Et il peut arriver qu'une Neshama, je ne vous dis pas des blagues, c'est Shulchan Aruch, okay? Et il peut arriver qu'une Neshama de Goy naisse dans un corps de juif. Ça dépend comment les enfants ont été fabriqués.
Je crois que la Neshama choisissait.
Et elle ne va pas n'importe où. Elle ne va pas n'importe où.
Mais justement, elle choisit.
Mais justement,
elle
non.
Mais
oui, ça veut dire. Non. Ça veut dire que si la Neshama va au corps qui lui est matim, qui lui est préparé pour. Et si ce corps lui est préparé chez des goïms, elle va chez des goïms. Si inversement, les parents juifs ont préparé un corps pour goï, il y a une Neshama goï qui vient dedans. Donc, cependant, ce sont des critères qui ne nous appartiennent pas. Étant donné que quelqu'un est né là où il est, c'est là où il est né qu'il est né. Par exemple, même, je vais vous donner un exemple, à la limite. Si un goy demande la conversion à Israël, demande à devenir Israël, ça veut dire qu'à l'origine, c'est une neshama juive qui revient. Parce que sinon, il ne viendrait pas. Le fait de venir, c'est le signe qui revient. Ok? Je vais vous raconter une histoire qu'il y a dans le Midrash à propos du Targum de Onkelos. À l'époque des Romains, les empereurs avaient l'habitude de choisir leur héritier et ils l'envoyaient se balader dans l'Empire pour faire leurs premières armes, comme on dit. Okay? Et en général, c'est l'institution des légats, le légat de l'empereur. Okay? Et alors... je crois que c'est l'empereur Néron, si je me souviens bien. Oui, je pense que c'est Néron. Bon, sinon, peu importe, mais en tout cas, il avait choisi comme héritier un certain Achillaüs. Okay? Et il a envoyé se balader dans l'Empire. Achillaüs est arrivé en Judée, qui était une province de l'Empire. Et il est devenu ami des rabbins, et finalement, il s'est converti au judaïsme. Et il est devenu un grand ami de Chacham, Et c'est lui qui a fait le Targum Onkelos, la traduction en araméen, que vous avez dans les livres, le Targum Onkelos. Il y a d'ailleurs un très beau commentaire que les rabbins ont donné de ce Targum, et qui s'appelle Netina la guerre, le cadeau fait aux convertis. Et alors, lorsque l'empereur a appris cela, il est rentré dans une fureur, il a convoqué, il a dit, tu es fou, hein, tu t'es converti au judaïsme, ce peuple misérable, il lui dit, écoute, chaque fois que tu envoies un légat, tu leur donnes un conseil. Moi, j'ai accompli le conseil que tu m'as donné. Il dit, quel conseil je t'ai donné? Il dit, écoute, si tu vois une affaire qui marche bien, t'en occupe pas, elle marche bien. Si tu vois une affaire qui marche pas du tout, occupe-t'en, parce que celle-là peut-être peut remonter, l'autre elle peut que descendre. Il dit, ben, j'ai accompli ton conseil. J'ai choisi la pire affaire qu'il y avait au monde, la voilà, c'est celle-là. Bon, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Pour vous éclairer ce que je disais. Si un goy veut devenir juif, ou bien c'est qu'il est fou, ou bien c'est qu'il est juif. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre explication.
Les personnages, quand je...
Mais c'est ça le cas. Mais Ruth, tu sais pas d'où elle vient, Ruth. Elle vient. Tout ça, vous n'avez pas appris. C'est des questions qui ne sont pas des questions parce que si vous aviez les connaissances préalables, la question ne se poserait pas. En fait, je vais vous donner la réponse. D'où vient Ruth? Elle est la descendante de Lot, qui était quelqu'un qui aurait pu être Abraham, mais qui avait le même ancêtre, Ever. Okay? Alors finalement, regarde ce qui revient avec Ruth. Okay?
Est-ce qu'elle a rattrapé tous ses...
Pas tous, mais enfin... Bon, tout ça, c'est des choses trop compliquées. Okay? Mais en tout cas, elle a donné la possibilité au roi David de naître. Bon, tout ça, il faut apprendre dans le détail. Pourquoi ? Okay ? C'est-à-dire, si un jour le Mashiach nous est donné, Bimer Rabbi Yamenu, ça va être grâce à Ruth. Okay ? Celle-là, pas une autre, hein, parce qu'il y a énormément de fausses routes. Okay. Bien.
La même,
c'est la même. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Des tribus perdues par les
convertis. Non, par les convertis, c'est à l'échelle individuelle. Les tribus perdues, c'est un autre problème. Mais, c'est-à-dire que là, c'est pas la seule thèse de la tradition, mais c'est la thèse la plus centrale, que lorsque un goy rentre en Israël, c'est que c'était une neshama juive qui revient.
Voilà.
Parce que d'ailleurs, c'est pas possible de le penser autrement. Sinon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Okay. Donc. La neshama, c'est pas une réalité de l'ordre de la quantité. Okay. Par conséquent, même si on te donne un nombre, c'est une façon de parler. Okay. On peut pas dire, par exemple, qu'il y a un nombre précis d'infini. Okay. Il y a différents niveaux d'infini. On ne peut pas dire qu'il y a un nombre précis d'infini. Puisqu'il s'agit de l'infini, il y a un nombre infini d'infini. Okay. Bon, ce sont des sciences tout à fait autres dans la Torah. Okay. Alors, on s'est beaucoup élargi, Ken, avec vos questions, mais on va essayer de revenir au sujet. D'ailleurs, on ne l'a pas tellement quitté, mais on l'a éloigné. Okay. Je reviens au sujet. Ce que je vous disais, en fait, c'est que... Nous avons dans ce chapitre 30 de Devarim, que je vous ai cité, une promesse que l'exil prendra fin et que le retour aura lieu. C'est une promesse. Et alors, les grands décisionnaires ont discuté de ce texte, sur ce texte, pour savoir si c'est vraiment une promesse ou bien si c'est un commandement. Puisque vous savez que tous les commandements dans la Torah, c'est un principe que vous apprendrez beaucoup dans les cours, tous les commandements dans la Torah nous sont donnés au futur et pas à l'impératif. Vous remarquez cela? Par exemple, dans les 10 commandements, Lo tirtzach, tu ne tueras pas. Il n'y a pas ne tue pas, il y a tu ne tueras pas. Et on traduit comme si c'était ne tue pas. On s'est tellement habitué au style qu'on ne voit plus le problème. Tu ne tueras pas, on entend ne tue pas. Mais en fait, il y a écrit Lo tirtzach et pas Al tirtzach. Vous voyez la différence? Bon. Alors les grammairiens vous diront. Qu'en hébreu, on se sert du futur pour dire l'impératif. D'où ils apprennent de là. Mais Mais il en reste. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que. Je vous donne tout de suite l'enseignement du Rav Kook à ce sujet, qui est très important, mais je schématise beaucoup pour avancer. Lorsque la Torah s'adresse à Israël comme collectivité, ce qu'elle lui dit dans la Torah, c'est une promesse. Si tu es Israël, alors voilà ton avenir. C'est une promesse. Maintenant, l'individu entend cette promesse comme un commandement. Un commandement de devenir cet Israël à qui la promesse est faite. C'est pas non plus si simple que ça, mais vous avez attrapé le principe. Quel ? Lorsque le même verset de la Torah, au futur, s'adresse comme promesse au clan d'Israël, comme commandement à l'individu. C'est clair ? Bon. Alors là-dessus, moi. Ou dans la Kita Gimel. Bon, ne mélangeons pas, c'est pour tout le monde, c'est ça. D'accord. Et alors, là, je ne me rappelle plus d'ailleurs à quelle occasion, mais enfin, probablement. Ah, Torah Tziva Lanu Moshe, Ken Nachon. Bien. Alors, je reviens à cette explication. Suivez bien parce que c'est important. Par conséquent, la Torah décrit l'éventualité de l'exil, et puis. Elle décrit, c'est le chapitre 32 de Varim, que vous lirez vous-même d'autre part. Elle décrit que cet exil prendra fin et que Israël reviendra. Alors, il y a une discussion chez les décisionnaires, et en particulier entre Maïmonide et Nachmanide. La question est de savoir si c'est une promesse ou si c'est un commandement. Okay. Alors, Maïmonide, dans son code des 613 commandements de la Torah, ne compte pas le fait de revenir en Israël comme un commandement. Alors que Nachmani le compte. Vous suivez? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Top. Et alors, je vais vous expliquer la différence de ces deux positions. Elles sont opposées. Chacun des grands décisionnaires nous donne l'ordonnance de 613 commandements. Tout le monde est d'accord qu'il y a 613. Quels sont ces 613 commandements? Grosso modo, tout le monde est d'accord, sauf quelques-uns où on voit des différences. Par exemple, dans le code de Maïmonide, il n'y a pas qu'il y a une mitzvah de quitter l'exil pour revenir en Eretz Israël. Et là, c'est l'endroit d'une énorme erreur d'énormément de juifs religieux qui nous disent « Ah, mais vous ne savez pas que dans Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah d'aller en Eretz Israël. Okay » En général, moi, je leur réponds « Est-ce que vous faites tout ce qu'a dit Maïmonide ?» Alors, ils ne répondent pas. Okay. Mais ce sont des gens, c'est le même problème que tout à l'heure, que même si c'était écrit dans Maïmonide, ils vous trouveraient notre argument. Tu comprends?
Okay. Bon.
C'est ça le fond du problème. Voilà, pareil. Mais je vais vous l'expliquer. Alors que Nachmanide, lui, dit, Beferouche, il y a une mitzvah d'aller en Eretz Israël dès qu'on peut. Et il donne un exemple. À Sukkot, il faut prendre le loulav. Et dans le loulav, il y a un étrog, un cédra. Or, il y avait des pays où les trogues étaient très rares. Alors, Nachmanide explique, si on ne trouve pas dans le marché, on peut prendre le loulav sans étrogue. On est quitte. Mais dès qu'on peut l'acheter, la mitzvah reprend force de loi. Et Nachmanide dit, c'est une mitzvah d'aller habiter en Eretz Israël, de quitter le pays où on est, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se trouve. Maintenant, si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais dès qu'on peut, la mitzvah prend force de loi. Vous voyez ? Et donc là, nous avons deux systèmes opposés, Maïmonide, Nachmanide. Maïmonide ne fait pas du tout allusion à l'idée que ce serait une mitzvah d'aller habiter en Eretz Israël. Bon. Pourquoi? Eh bien, tu as répondu. Pourquoi? Parce que pour Maïmonide, si on a besoin de dire à un juif qu'il y a un commandement qui doit habiter chez lui, il sait que ce n'est pas chez lui. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. C'est beaucoup plus fort. Parce que nous avons, Maïmonide a donné des chapitres entiers où il explique les principes qui définissent quels sont les 613 mitzvot de la Torah. Et il y a un principe extrêmement important. La Torah ne légifère pas sur une conduite naturelle. Si c'est une conduite naturelle, il n'y a pas de commandement. La Torah ne légifère que sur la forme de la conduite, mais pas sur l'acte. Par exemple, il n'y a pas un commandement qu'il faut manger. Il y a un commandement comment manger. Vous y êtes? Parce que lorsqu'il s'agit d'une conduite naturelle, il n'y a pas de liberté. Donc il ne peut pas y avoir de loi. Vous comprenez? Il ne peut pas y avoir d'obligation de commandement puisqu'il n'y a pas de liberté. Okay. Ça y est, c'est clair? Bon. Alors, pourquoi Nahmanide, lui? Et il n'y a pas de commandement de Pérou au bout. Il y a un commandement d'avoir un garçon et une fille. Et pour réaliser ce commandement, il faut donc les avoir. Effectivement, on a étudié ça au cours. Okay. Attends, j'y arrive. J'ai pas oublié Nahmanide. Vous comprenez la discussion du Talmud, c'est pas que, bien sûr qu'il y a obligation d'avoir des enfants, mais elle est seconde. Comment on la prend de façon seconde? C'est parce qu'il y a obligation de laisser après soi un garçon et une fille qu'on apprend qu'il y a obligation d'avoir un enfant. Mais l'obligation, c'est pas d'avoir un enfant. Ça, un homme normal a des enfants. Okay? C'est un acte naturel. C'est un instinct. Vous comprenez? Mais comment, sur quoi la Torah légifère? Sur la forme de la conduite, pas sur la conduite elle-même. C'est un grand principe chez Maïmonide. Notez bien ce principe. Un acte naturel, ta'alir tiri, la Torah ne légifère pas. Elle légifère sur la forme, parce que je ne suis pas libre de l'acte. Je ne suis pas libre de ne pas manger. Je suis libre comment je mange. Est-ce que c'est clair? Mais bien sûr, même dans son code. Dans son code, il dit qu'il y a une mitzvah de ne pas laisser Eretz Israël aux étrangers. Alors comment tu veux ne pas laisser Eretz Israël aux étrangers si toi tu n'y habites pas? Mais regardez à quel niveau Maïmonide se situe. Il parle à un homme normal. Et son raisonnement est très simple. Tu vas partir en exil. Ken, je te promets que tu reviendras. Si tu ne reviens pas, c'est que cette promesse ne te concerne pas, c'est que tu n'es pas d'Israël. C'est beaucoup plus grave que ça. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? Le raisonnement de Maïmonide, on peut le formuler de la manière suivante. Celui qui ne ressent pas de lui-même la nécessité de revenir en Eretz Israël, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne se sent pas en exil, donc ça ne le concerne pas. C'est pourquoi c'est très grave. Vous comprenez? Attendez. Donc, c'est clair, la position de Maïmonide. Vous n'avez aucune idée à quel point. Je ne veux pas dire que c'est l'ignorance est évidente. Okay. Et là, vous allez me dire comment des gens si compétents sur d'autres domaines peuvent être aussi ignorants sur des domaines pareils. Okay. Ben oui, il faut savoir une chose. Il n'y a pas d'érudit universel. Même chez les rabbins, il y a des spécialités. Vous avez des rabbins qui sont extrêmement compétents pour savoir si un os de poulet est cachère ou pas. Mais ils ne comprennent rien à la relation Eretz Israël. Ce n'est pas leur compétence. Comme vous avez par exemple des avocats qui savent faire un divorce, okay, mais transaction d'achat de terrain, ils ne sont pas compétents. Okay. Vous avez après le problème? Bon, alors par exemple, ces rabbins à qui il ne faut pas demander si on doit aller en Eretz Israël ou pas, il suffit de savoir si on est juif. Ceux-là, par contre, il faut leur demander, parce qu'ils sont compétents, si l'os de poulet est cachère ou pas. Donc, j'ai dit ça sans humour.
Qu'est-ce que tu veux? Lorsqu'un juif s'adresse aux juifs ne revenant pas en Israël, et qu'il dit que ça ne les concerne pas, il s'adresse à des hommes normaux.
Comment?
Il s'adresse à des
hommes normaux. Non, il s'adresse à des hommes tellement normaux qu'on se demande s'ils existent sur Terre.
Bon. Alors,
c'est la raison pour laquelle Nahmanide va intervenir et il dit d'accord. Oui, mais moi, je connais mes juifs. Si on ne leur met pas dans la loi qu'il y a une mitzvah pour de revenir en Eretz Israël, ils ne reviendront pas. Alors, finalement, qui a eu raison? Maïmonide ou Nahmanide? Suivez ma question. Maïmonide. Parce que c'est pas... Mais oui, c'est Maïmonide qui a eu raison. Chut. Les juifs sont revenus parce qu'il y avait une promesse qu'ils reviendraient. C'est pas parce qu'il y avait écrit dans leur code qu'ils reviendraient qu'ils sont venus. Allons. Regardez l'histoire, comment elle s'est passée.
C'est dedans. Quand on prend en stade actuel, par exemple, le cas des juifs français, vous dites qu'ils ont des problèmes d'un ordre psychologique. Donc ils ne sont pas considérés comme personnes normales.
Alors ça, il faut... Mais non, un malade n'est pas normal.
Non.
Mais il faut revenir au cas précédent qu'on a déjà étudié. Et non, mais ça je peux vous le dire tout à trac. Hein. Les juifs de la Gola sont tous malades. En tant que juif, je dis bien. Et ils ont une maladie qui est très connue, qui est la névrose juive. Et elle est très connue, cette maladie. Elle est clinique, elle est classée, elle est... Ça existe, la névrose juive. Bon. Et là...
Alors, qu'est-ce que dit Maïmonide de ce genre ?
Non, on revient au cas précédent. Ceux-là, il faut les sauver. Il faut les sauver par miracle. Pour le moment, on est au niveau légal. Tu sais, légal. Qu'est-ce que dit la loi ? Alors, Maïmonide, vous allez lui demander, donne-moi un commandement pour retourner en Eretz Israël. Et tu dis, malheureux, c'est pas toi que je parle. Si j'ai besoin de te donner un commandement pour retourner en Eretz Israël, c'est que tu n'en fais pas partie. Il faut donner un commandement à un fils de rentrer chez sa mère. Où ça existe, ça ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez de quel cauchemar il faut se réveiller ? Est-ce que c'est clair ? Bon. Et vous voyez le genre de thérapeutique qu'il faut faire.
On est à l'hôpital en ce moment.
Et vous êtes peut-être à l'université de à la faculté de médecine. Bon. Je sais pas si tu as compris la différence. Bon, t'as compris. Bon. Alors je reviens maintenant. Nachmanide. Je n'ai pas fini. Je voudrais terminer que vous compreniez bien ce que je veux dire. Nachmanide, lui, tient à exprimer un commandement particulier, que c'est une mitzvah d'aller habiter. Quelle est la différence ? C'est une différence pédagogique. Okay. Nachmanide décide qu'il faut parler aux juifs comme ils sont. Et avec une espèce de naïveté, si j'ose dire. Nachmanide, naïf, bon, okay. Parce que peut-être que s'ils lisent dans leur code qu'il y a une mitzvah de retourner en Eretz Israël, ils reviendront. Mais malgré tout, l'histoire a donné raison à Maïmonide, pas à Nachmanide. C'est pas parce qu'il y a un commandement de revenir que les juifs sont revenus. C'est parce que le temps du retour est arrivé. Autrement, ils ne seraient pas revenus. Et c'est l'histoire qui nous a fait revenir. Nous sommes revenus avec nos pieds, pas avec notre tête. Et la tête a suivi parce que les pieds ont marché. Je vais essayer de... Une minute, vous êtes restés là de cette manière avant que j'oublie. Si vous faites un galop, comme on dit ça en français, j'oublie, un sondage, dans une ville en Israël, dans la rue, vous demandez aux Israéliens qui sont dans la rue, pourquoi tu es ici ? Pourquoi tu es venu ici ? Pourquoi, alors qu'il y a tant de Juifs qui vivent à l'étranger, pourquoi toi tu vis ici ? Alors chacun va vous raconter sa vie. Et... Par exemple, un va vous dire, eh bien, je suis venu ici pour pouvoir être socialiste. Vous n'avez aucune idée à quel point il y a des sionistes dont la motivation, c'est le socialisme. Okay ? Quel rapport ? Bon. Et alors, encore une fois, pas n'importe quel socialisme. Socialisme comme ça, ou socialisme comme ça, ou socialisme comme ça. Et si c'est Pérez, c'est pas Rabin, et si c'est le Mapam, c'est pas le Mapam. Et chacun va vous fonder un parti avec l'histoire de sa vie. Et c'est vrai. Et tout ça, c'est très intéressant, c'est très important, mais ce n'est pas la vraie raison. Parce que premièrement, on pourrait être socialiste ailleurs. Peut-être c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment être socialiste ailleurs, c'est un autre problème. Okay, mais deuxièmement, vous en avez d'autres qui vont vous dire « Ah, je suis venu en Eretz Israël pour être religieux. » Comme si on ne peut pas être religieux ailleurs, à la rue Cadet. Et peut-être c'est vrai qu'on ne peut pas être vraiment religieux ailleurs, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas la vraie raison. Et d'ailleurs, il va vous dire, et moi je vais être religieux comme le quartier nord de Bnei Brak et pas le quartier sud de Beit Vagan. Okay, chacun va vous fonder une chapelle. Et etc., etc. Chacun va vous raconter sa vie. La vraie raison, c'est qu'il est venu parce qu'il est juif et que ses pieds l'ont ramené chez lui. Et après, il se cherche une raison. Et il s'en trouve. Ou il ne s'en trouve pas. Vous comprenez comment il faut comprendre le problème. C'est clair ? La vraie raison, c'est qu'il est venu. Et après, il se dit, tiens, pourquoi je suis venu ? Alors il croit qu'il est venu pour être socialiste ou pour être religieux ou pour être tout ce que vous voudrez. Il est venu parce qu'il est membre du peuple juif qui revient chez lui. Je pense que c'est clair. Okay. Et bien, c'est la raison pour laquelle, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le retour à Sion. Je suis désolé. Une minute. J'ai pas fini. Là, et ceci dit, à ce niveau-là, quelle que soit la raison qu'un juif se donne pour revenir, même pour démolir l'État d'Israël, qu'il revienne. Après, on verra. Dans la maison, on s'arrange avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelle que soit la raison, elle est valable. Et c'est pourquoi, quel que soit l'engagement personnel de chacun dans son mouvement, à ce niveau-là, tous les mouvements sont valables, pourvu qu'ils ramènent des juifs. Et je pense que c'est clair. Il vaut mieux être mieux que pas moins, mieux que mal. Mais ceci dit, la Torah n'a jamais dit les juifs comme ça ou autrement reviendront. La Torah dit les juifs, un point, reviendront. Et lisez tout Ézéchiel. Okay. C'est un tout autre problème. C'est un tout autre problème. Ça y est, vous êtes déjà convaincu qu'il faut venir, vous pensez à ceux qui redescendent. ça aussi, on parlera. Mais ce n'est pas maintenant notre sujet. N'aie pas peur, on en parlera. Okay. Mais écoutez, je vais vous répéter encore une fois ce que je vous dis depuis le début de l'année. On étudie un sujet, n'identifiez pas avec des personnes connues ou pas connues. Okay. Ne soyez pas... ne soyez pas préoccupés par le sort de tel ou tel parent, ami, allié ou connaissance. Il y a un bon Dieu au ciel. Okay. Il s'occupe de tous ces juifs, n'ayez pas peur. Il s'occupe même des araignées. Alors des juifs, je ne sais pas. Okay. Ben, les araignées, ça existe, non? Donc, hein? Mais de tout. Écoutez, ne changez pas de sujet. On n'a pas fini avec le sujet sur lequel on est en train de parler. Après, on arrive au Roi Jordan. Okay. Et là, j'espère que vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Okay. Bon, j'ai pas fini. Et la même enquête, vous allez la faire à l'étranger. Et vous allez demander aux Juifs, qui ne sont pas en Eretz Israël, pourquoi ils vivent là où ils vivent. Eh bien, vous allez avoir le même phénomène. Chacun va vous raconter sa vie, c'est très intéressant, c'est de la culture, mais la vraie raison, c'est qu'il ne vient pas, et après, il se cherche une raison. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bon, alors il faut démystifier tout cela. Il faut démystifier tout cela. Il y a une seule raison fondamentale. Je suis juif, j'ai pris conscience que j'ai enfin mon pays, je rentre. Ou alors ça veut dire, et je me cherche des contorsions, tous des alibis, alors ça veut dire je ne veux plus être juif. Parce que maintenant, mis au pied du mur, il y a les lamentations. Vous voyez le problème? Mis au pied du mur, il se cherche des raisons. Alors c'est qu'il n'est pas dans le coup, c'est qu'il ne fait pas partie de ce peuple. Est-ce que c'est clair? C'est un des alibis qu'on se cherche. J'ai pas dit ça comme ça. Ça porte pas sur ce que tu dis toi. C'est quelqu'un dont la Neshama a peut-être déjà décidé de venir. Il a encore des écailles. C'est autre chose. C'est pas la même chose. Mais celui qui prend conscience que c'est possible, tout ce qu'il a entendu pendant 2000 ans, et qui se cherche des raisons pour se donner des alibis, alors Maïmonide répondra, cette promesse ne te concernerait pas, ne te concernait pas, la preuve. La preuve, c'est toi qui la donnes, que ça ne te concerne pas. La halakha n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est trop terrible. Maïmonide ne parle que pour des gens normaux, mais notre peuple est malade pendant 2000 ans. Alors il faut une halakha à la mesure. C'est pourquoi je vous ai parlé de patience, etc. Vous avez compris, je ne reviens pas sur ce que je dis là. Bon, c'est clair jusque-là? Et alors, attendez, j'ai pas fini. Mettez votre question de côté. Non, j'ai pas fini là-dessus. Cette même marloquette, elle se trouve entre Maïmonide et Nahmanide sur une autre mitzvah qui est la même, d'ailleurs. Parce qu'elle est étudiée sur le même mitzvah, sur le même verset. C'est le fait de savoir si, quand on a fait une faute, il y a un commandement de se repentir ou pas. C'est-à-dire, la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah de faire tshuva? Maïmonide dit il n'y a pas de mitzvah de faire tshuva. Il y a une mitzvah que quand tu fais tshuva, voilà comment il faut le faire, en avouant la faute. Ça, on étudiera un peu plus en détail. Vous comprenez bien à quel point c'est parallèle. Nachmanide dit il y a une mitzvah de faire tshuva. Vous voyez que la controverse est très parallèle. Alors, raisonnement de Maïmonide. Maïmonide nous dit ceci. Qui a fait une faute? C'était un tzaddik qui a fait une faute. C'était quelqu'un qui était soumis à la loi, et puis est arrivé un takala, un pancher, comme on dit ça en français. Une panne, très chère. Il est arrivé un malheur, il a fait une faute. Mais on peut lui faire confiance que de lui-même il reviendra. Alors la Torah n'a pas légiféré sur un tzaddik, s'il a fait une faute, qu'il a un commandement de faire tshuva. Il y a que des tzaddikim qui font des fautes. Les autres, c'est pire. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Ça veut dire, qui a fait une faute? C'était celui qui avait, dont la conscience était sensible à une valeur morale. Celui dont la conscience est sensible à une valeur morale, on peut lui faire confiance que de lui-même, il se repentira. Okay. Vous voyez à quel niveau Maïmonide prend les choses. Vous voyez à quel point c'est parallèle. Alors que Nachmanide dit non, il faut l'aider. Okay. Il faut qu'il ait conscience qu'il a une obligation de faire tshuva. Et regardez, cet exemple est encore beaucoup plus éclairant. Okay. Maïmonide dit revenir de la faute, mais c'est un processus naturel du tzaddik. On va donner un commandement au tzaddik. Premièrement, ne fais pas de faute. Et deuxièmement, si tu fais une faute, repends-toi. Alors c'est pas un tzaddik à qui tu parles. L'exemple que j'ai l'habitude de donner, je sais pas, il y a longtemps il m'est arrivé dans l'esprit, il m'est resté. Imaginez que on doit former des pompiers. Alors, si vous devez écrire un manuel des pompiers, en mettant premièrement le feu brûle, deuxièmement l'eau éteint le feu, c'est que c'est pas un pompier que tu parles. Vous voyez, c'est à peu près le même chose. Si tu dis à un tzaddik qu'il y a un commandement de se repentir si on a fait une faute, à qui tu vas parler? Non, écoutez, comprenez les choses comme je vous dis. Qu'est-ce que vous dites? À l'école des pompiers, on va apprendre que l'eau éteint le feu. Là, tu me déboussoles. C'est un peu pompier ce que tu dis. Non, rien à voir. C'est formel, c'est autre chose. Okay. Non, comprenez bien ce que je vous dis là. C'est que, vous voyez la différence. Il y a un processus naturel authentique. Ça, c'est le niveau de Maïmonide. Okay. Un tzaddik a fait une faute. Et Charles Mochalav chez Ashur Bitshuva. On peut compter sur lui qui reviendra. Sinon, c'est. Vous comprenez? Nachmanide dit non, il faut l'aider. Il faut l'aider en lui disant, bon, tu as fait une faute, mais dans ta Torah, il y a un commandement, il y a une mitzvah, que si tu as fait une faute, tu feras tshuva. Okay? Et alors, vous voyez que nous sommes à deux niveaux très différents. Mais vous voyez que c'est parallèle, c'est la même chose. Okay? On étudiera d'autres textes sur les problèmes de l'exil et du retour, dans la Gemara d'ailleurs, et on verra que être en exil est considéré par la Torah comme être en faute. Revenir, c'est se repentir. Que c'est exactement le même vocabulaire. Vous comprenez le problème? C'est la faute d'éloignement. Et dans cette faute d'éloignement, une faute très grave, le retard. Parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû revenir si nous étions à la hauteur de Maïmonide. Il y a une espèce d'entêtement que nous sommes en train de diagnostiquer. Vous voyez, vous essayez, et c'est normal, de restituer toute l'argumentation possible, Ken, pour essayer de justifier quelque chose d'injustifiable. Je pense que c'est clair. Dès qu'on on retrouve une sorte de normalité de l'être, on s'aperçoit que c'est absolument injustifiable. Des goïms authentiques suivraient cette étude avec nous, ils se diraient ces juifs sont fous. Hein? Qu'est-ce qu'ils se cherchent des preuves pour avoir à rentrer chez eux? Vous comprenez à quel point c'est inouï, ce problème. Okay. Ça y est, c'est clair. C'est donc qu'il y a quelque chose de caché là-derrière. Et on va essayer de le dévoiler, de le décrypter. Bien sûr, il y a quelque chose de caché là-derrière. qu'est-ce qui fait cet entêtement des Juifs à s'engluer dans l'exil, alors qu'ils savent que c'est la racine de tous leurs maux.
Parce qu'ils sont malades, justement, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir.
On va essayer, oui, mais on va essayer d'abord de comprendre le problème à la racine, en toute bonne foi. Qu'est-ce qui se passe, okay. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a mis déjà 2 heures ce soir pour enfoncer une porte ouverte avec des bulldozers. Et je vous assure que c'est très fatigant, très difficile d'enfoncer une porte ouverte avec des tanks. Okay. Ça y est, c'est clair. Vous voyez dans quel monde de fous on vit. Okay. Bon. Et bon, maintenant je vous donne quelques minutes pour vos questions, pour vous défouler un peu, et on enchaîne un peu sur le texte. Okay. Et voilà.
C'était par rapport à Nachmanide et Maïmonide. Savoir si Rabban finalement.
Attendez, une minute. Vous suivez tous? C'est pas trop difficile encore? Vous tenez? Tamar, tu me rappelles ta question, hein, le paysage, le territoire et Dieu du territoire. Okay.
Oui. Parce que Ramban ne met pas finalement par écrit quelque chose qui est important. Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est écrit que c'est important. Je pense
que oui, mais Maïmonide que... dira, mettre par écrit cette chose évidente, c'est un blasphème. Maïmonide répondrait cela. C'est un blasphème d'avoir à dire à un fils qu'il a le devoir de rentrer chez sa mère. Okay. Vous comprenez? Vous connaissez la parabole du fils prodigue? Okay. Oui, un peu. Là, et quand on va rentrer un peu plus dans la Gemara, dans les lunes qui suivent, vous allez être affolé de cette espèce de vertige d'autosuicide qui a pris le peuple juif dans ce problème. Okay. Et la Gemara le dit tellement clairement, et en si peu de mots, qu'on se demande tous ces faux guides qu'on a eus pendant des siècles et des siècles qui ont empêché leur peuple de rentrer chez lui. Et je vous dis, on aurait pu économiser le nazisme. Et que les vrais responsables, ce n'est pas tellement les juifs qui se sont laissés mener à l'abattoir, c'est ceux qui devaient leur enseigner la Torah et qui leur ont enseigné à l'envers. Bon, revenons au problème. J'ai nommé personne, hein. Et j'ai pas dit que c'est la Torah qu'on enseigne à Anvers, mais j'ai pas dit le contraire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi je suis très impressionné par votre capacité juive, de Galoute d'ailleurs encore, d'argumenter pour essayer de sauver la position intenable que vous savez intenable. C'est inouï, parce que à travers vous, à travers votre discours, pas vous, c'est effectivement cette situation juive de Galoute qui s'exprime. Okay. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous auriez ici, je ne sais pas moi, des sociologues, des juristes, des historiens, ils se diraient ce peuple est malade, ce peuple est fou. Okay. Il faut qu'il se démontre qu'il n'est pas le contraire de lui-même. Okay.